Donc, bonjour, je me trouve en compagnie de Cédric Chao, auteur du Global Manga, donc manga à la française Le Grand Pélican, qui vient de sortir aux éditions Contredire et à qui je vais poser quelques questions donc, par rapport à son œuvre. Bonjour Cédric.
Bonjour Bertrand.
Alors, tout d'abord, est-ce que tu pourrais te présenter à nos lecteurs, nous dire qui tu es et nous parler un peu de ton parcours qui t'a amené à devenir, pour ainsi dire, un mangaka à la française?
Je m'appelle Cédric, donc et je ça ne s'entend peut-être pas, mais je suis français d'origine chinoise. Donc j'ai les deux cultures, une culture asiatique et une culture française. Et pourquoi est-ce que la bande dessinée? Parce que j'étais baigné dedans depuis que je suis tout petit. Je fais partie de cette génération qu'on appelle la génération Club Dorothée. Et étant d'origine asiatique, j'ai passé quand même pas mal de temps en vacances à Hong Kong quand j'étais gamin. Donc j'ai baigné peut-être encore plus que les petits Français dans cette culture bande dessinée, manga, dessin animé.
Et pas Kung Fu, paradoxalement.
Ah, j'ai fait des arts martiaux, mais oui, mais c'est pas. On essaie d'éviter les stéréotypes, les gros stéréotypes quand même. Donc la bande dessinée. Alors la bande dessinée, pourquoi? Alors je sais que j'ai toujours aimé dessiner depuis que je suis tout petit. Je me souviens de ma première bande dessinée. Je l'ai fait à l'âge de 7 ans, 7 ou 8 ans. Je regardais un épisode de Alf, la série télé Alf. Et je me suis dit, bah tiens, ça serait sympa que je fasse ma propre histoire avec des extraterrestres. Et donc j'ai fait 2 pages quand j'avais 7-8 ans et c'est resté depuis. Voilà.
D'accord, donc tu as touché au dessin très très tôt. Et à partir de là, d'où est-ce que t'es venue l'envie justement de dépasser la BD par pur plaisir, juste pour toi, à avoir une volonté de te dire, tiens, ça peut devenir un métier à part entière?
Ça a commencé. On va revenir quand j'étais tout petit. Je sais que je me souviens que je demandais tout le temps à des adultes de me dessiner tel ou tel truc. Et qu'il fallait que j'attende le dessin et c'était très frustrant. Donc je me suis mis au dessin comme ça. C'est-à-dire que je voulais un lion, donc j'ai dessiné un lion. Lorsque je lisais des bandes dessinées comme Astérix ou Gaston ou Tintin, je me disais, tiens, c'est pas mal, mais. Faut que j'aille à la bibliothèque, faut que je les emprunte, faut que j'attende. Et puis les histoires, moi, ça m'a toujours fait rêver. Donc je me suis dit, mais pourquoi je dessine, j'aime bien les histoires, et pourquoi pas en faire la mienne finalement. Donc ça a commencé vraiment à partir de 7-8 ans.
D'accord.
7-8 ans, je me suis dit, il faut que je le fasse moi-même. Ça m'amuse, pourquoi pas.
Alors, Le Grand Pélican, si je ne dis pas de bêtises, est ta première œuvre.
Non.
Quelle a été justement...
C'est ma deuxième. C'est ma
C'est ta
deuxième.
deuxième.
C'est ma deuxième.
La première à être publiée
La
ou...
pr alors, j'ai publié aux éditions Milan une biographie de la première femme pharaon qui s'appelle Hatshepsut.
Oui.
Donc, c'était mon premier travail de 200 pages en noir et blanc publié. J'ai publié aussi dans PIF. C'est rigolo, quand PIF existait encore, il y a 4 ans, j'ai publié 10 pages dans PIF, un manga aussi qui s'appelle Mécano Aurélie, qui est une espèce de fusion entre justement le steampunk et les Magical Girls qu'on a pu regarder quand on était petit, voilà, comme Creamy ou Une Magique.
Gigi,
Voilà.
ouais. Alors, d'où est venue l'idée de départ du Grand Pélican, d'ailleurs, d'abord pourquoi ce titre, jusqu'à là, j'allais dire, combien de temps ça t'a pris et quelle technique de travail tu as utilisée pour aboutir à cette œuvre? Puis ensuite, on verra plutôt des aspects un peu plus techniques, je dirais.
Alors, le Grand Pélican, c'est un projet sur lequel je réfléchis depuis que j'ai l'âge de 14-15 ans. J'en ai 34. Et en fait, j'y réfléchis. En fait, j'écris cette histoire depuis que j'ai l'âge de 14-15 ans, mais j'y réfléchis depuis que je suis. Depuis 1900. Alors, peut-être 1984, il me semble. Parce qu'en 1984, je suis allé à Hong Kong et j'ai vu mon premier Ghibli, qui était Laputa, le château dans le ciel. Et ça a été une véritable révélation pour moi. Non seulement je ne connaissais pas Miyazaki, Mais l'univers entier était pour moi une véritable révélation. C'est-à-dire ces machines volantes, les machines à vapeur. Bon, tout le côté steampunk m'a fait. Voilà.
Ça t'a fait rêver.
Ça m'a fait rêver. Ensuite, à 14, il me semble que c'était à 14-15 ans, il y avait un dessin animé qui passait sur la 5, produit par la Gainax, qui est Nadia, le secret de l'eau bleue.
Oui.
Nadia, le secret de l'eau bleue, qui était directement inspiré
Très inspiré
très
de Jules
inspiré de
Verne,
Jules Verne, voilà, et de Miyazaki de Laputa. Et je me suis dit, mais c'est génial, il faut absolument que je fasse ce truc-là. Et depuis, j'y pense constamment. Voilà. Donc Nadia, ça a été vraiment le déclic qui m'a dit bon, il faut faire quelque chose, faut faire le grand pélican.
Alors justement, vu qu'on parle un peu de l'œuvre, après on va en arriver à l'histoire. Donc t'as, si j'ai bien compris, d'après les remerciements à la fin, tu as vraiment travaillé, je dirais, un peu comme un studio à la japonaise.
Oui.
C'est-à-dire, il y a le maître et les assistants.
Alors,
Alors,
le
est-ce que
maître, c'est
tu...
un grand
Oui.
mot, mais voilà.
Enfin, il y a le
Le
responsable
responsable
et
les
les
petites mains.
assistants. Est-ce que tu peux expliquer justement comment ça se passe dans ce cadre-là?
Alors, mes assistants, entre guillemets, ce sont mes élèves. Il faut dire que je suis professeur de bande dessinée à l'école Eurasiam. Et donc, en fait, les meilleurs élèves, les deux ou trois meilleurs élèves, à la fin de l'année, font un stage avec moi pour travailler sur mon projet. Alors, comment ça se passe? Ça se passe. C'est un studio, effectivement, c'est un studio. Ils ont des tâches à accomplir. Mais c'est pas vraiment non plus le studio à la japonaise parce que il reste encore des élèves, ils ont encore beaucoup de choses à
Et
apprendre.
donc, tu dois les
Et
encadrer
je dois les
énormément.
encadrer, voilà. Donc ce qui se passe, c'est que moi, je fais tout le travail de dessin, le storyboard, le crayonné, l'ancrage, que je fais de manière classique, c'est-à-dire avec une plume, de l'encre de Chine, un papier A3, technique. Et lorsque la planche est terminée, lorsque toute la planche est terminée, je demande à mes assistants de la scanner, de la cleaner
Donc
et
de la
de la
nettoyer, d'enlever les
nettoyer
petites
dans les
imperfections.
voilà. Donc au Japon, ça se fait à la gomme. Là, je leur demande de faire ça sur ordinateur, hein, ça va quand même un peu plus vite. Et j'ai toute une bibliothèque de trames que j'utilise pour justement montrer les différentes. Niveau de gris, et je leur demande de tramer ces planches. Alors je leur indique où tramer, évidemment, ils ne sont pas laissés comme ça. Je leur demande de tramer tel ou tel personnage avec tel ou tel trame, et je leur demande également de mettre le texte,
Non, tout ce qui est
de tout ce
lettrage,
qui est
mise en
lettrage, mise en
place.
page, voilà. Je leur ai demandé aussi de faire le logo parce que c'est quelque chose que je peux faire mais j'ai pas le temps de le faire. Je leur demande aussi de travailler, je leur ai demandé de travailler sur le titre, sur le graphisme du titre, qui est vraiment très important, de ne pas utiliser une police de caractère qui existe déjà dans le commerce et de vraiment créer quelque chose. Donc moi ça m'a plu de faire cet exercice-là parce que en fait je regarde beaucoup de making of. Et j'ai vu le making-of de Star Wars, les derniers, bon, on aime ou on n'aime pas, moi c'est moyen, mais on voyait Lucas travailler, et il était comme un chef d'orchestre. Donc moi ça m'a plu de jouer un peu le chef d'orchestre, d'avoir ses inspirations et de donner finalement libre cours à mes assistants, en tout cas pour le logo et pour le
Oui,
design
tu
du
leur donnes
titre.
quand même une certaine
Je leur donne une
liberté.
certaine liberté, mais avec, voilà, moi je leur donne une ligne directrice. Pondez-moi ce que vous
Oui,
pouvez.
ça fait un peu un boulot de contremaître et d'apprenti.
Oui,
Tu leur apprends,
apprends. Et puis,
et de leur côté, il y a une certaine liberté,
okay.
et
Et
ensuite, il y a la confrontation, pour ainsi dire,
un
avec
échange
un
d'idées,
échange
voilà. Ouais,
perpétuel,
voilà.
et la validation ou
Voilà.
pas, et
Voilà.
explication sur le pourquoi du comment.
Voilà. Ce
D'accord.
qui m'intéresse, c'est vraiment un travail d'équipe. J'ai besoin d'avoir des gens qui soient intelligent et qui puisse me dire non, là Cédric, moi je vois plus ça, et voilà, une
Oui,
confrontation
tu les mets
d'idées,
dans
voilà.
des vraies conditions de travail aussi, en leur montrant que c'est aussi à eux de
De s'épanouir
j'allais
et
dire, de
de. Oui.
s'épanouir et d'être capable de dire oui ou non. On n'est
Voilà.
plus dans la tentation du je le fais parce que je vais plaire, même si je sais que je risque de rendre un travail un peu bâclé ou raté. Là, il y a vraiment un objectif clair, un accord entre les deux parties, pour ainsi dire, et une mise, j'allais dire, en commun pour atteindre l'objectif le plus rapidement et le mieux possible.
Bon, mais j'ai quand même le dernier mot.
Logique. Justement, puisqu'on en vient à parler du manga, donc pourquoi le Grand Pélican?
Alors, ça fait partie des choses que je peux pas dire. Pourquoi le
D'accord,
Grand
c'est un des
Pélican?
secrets
C'est un des
qui sera
secrets.
révélé.
Voilà. Le Grand Pélican. Alors, c'est un titre. J'ai eu beaucoup
Qui est assez
d'idées de titres.
énigmatique, hein.
Voilà. Et je le voulais énigmatique. Je voulais que les gens me posent la question. Je voulais les frustrer aussi. Donc, je ne peux pas répondre véritablement au grand. Pourquoi le Grand Pélican? Mais c'est quelque chose qui est profondément ancré en moi.
D'accord.
Le Grand Pélican en général, enfin en tout cas la bande dessinée, c'est toutes les. Le Grand Pélican, c'est moi, finalement, on peut dire. Le Grand Pélican. C'est mes peurs, mes envies, mes amours. C'est moi couché sur une feuille de papier. Maintenant, le Grand Pélican, pourquoi le Grand Pélican? Le titre fait partie de l'histoire, mais je ne peux pas le dire. Mais en tout cas, le Grand Pélican, c'est ça.
Alors, pour ceux se demandant à quoi ressemble ce grand pélican, je tiens d'ores et déjà à préciser que ce manga-là, publié dans un sens de lecture
Occidental.
occidentale, histoire de plaire au plus grand nombre, a un format qui tranche, j'allais dire, usuellement avec l'idée qu'on a des mangas. Ne cherchez pas un petit format poche. Orientez-vous plutôt vers un manga de taille, un peu comme le fait la collection Casterman Écriture
Écriture.
avec Jirō Taniguchi, ou éventuellement la nouvelle collection Kiun qui viennent de lancer. Donc un format plutôt moyen, intermédiaire, j'allais dire un format à la comics,
La
hein,
comics, ouais.
finalement. Une belle couverture, j'allais dire, verte, avec quelques symboles ésotériques, et un graphisme où on se rend compte quasiment dès le départ, ne serait-ce qu'au niveau de la couverture, que tu es un grand fan d'Osamu Tezuka.
Un très très grand fan de Osamu Tezuka. Je considère que Tezuka, c'est peut-être l'un des. C'est le meilleur.
J'allais même dire, c'est la fusion entre deux genres, le manga, la japonaise telle qu'on l'imagine, et en même temps un amour de la ligne claire. Enfin, quelque part, c'est montré, contrairement à ce qu'on croit, on a toujours l'imaginaire que ce soit les comics, la BD ou les mangas sont des genres un peu à part. Et sans s'en rendre compte, on voit qu'il y avait quand même des contacts. J'avais lu par exemple que Taniguchi était un grand, grand admirateur de BD européennes qui s'achetait uniquement pour voir le dessin, même s'il comprenait strictement rien à ce qu'il y avait dans les bulles. Et je pense qu'ils l'ont tous fait à un moment ou à un autre.
Que ce soit Mobius, que ce soit Urasawa, que ce soit Tezuka, ils ont tous été en contact avec la bande dessinée
Ouais.
mondiale.
C'est vrai que dans les années 70-80, il y avait bah, vu qu'il n'y avait pas Internet, il y avait quand même un
Vivier,
vivier des
voilà.
contacts, que ce soit par les maisons d'édition, vu qu'il y a eu des tentatives franco-belges pour mettre le pied au Japon, que ça n'a pas du tout marché. J'ai le souvenir justement de la BD Mobius Taniguchi, Icar, qui
Icar.
était magnifique, mais qui a fait un flop, vu que j'allais dire, on sentait que c'était raconté entre guillemets à l'occidental et qu'on avait du mal à se plier à une volonté de prépublication et de vote, quoi, finalement, comme le font traditionnellement les Japonais. Au niveau de la BD, donc, mettons en place l'histoire, ça se situe à la fin du 19e siècle. Ça raconte l'histoire du dernier cuirassé, enfin je vais pas dire du dernier, du cuirassé que la France vient de lancer. Qui disparaît mystérieusement, j'allais dire,
Dans
lors de
l'océan
ses,
Atlantique,
dans l'océan Atlantique,
pendant une
lors de
manœuvre.
son premier voyage.
Voilà, pendant une manœuvre.
À cela s'ajoute, j'allais dire, à plein de clins d'œil finalement extrêmement savoureux dans cette BD, un détective complètement maladroit qui a de très bonnes idées, des idées fulgurantes pour ainsi dire, mais qui échoue totalement généralement dans ce qui est de la traque des criminels. Donc là, tu t'es amusé à reprendre le registre traditionnel du gag manga avec un type très sympathique qu'on adore dès le premier coup d'œil et où on se marre franchement parce qu'au début, on le voit rempli finalement d'illusions, fier de lui, se déclarer tiens, ça y est, je vais attraper tel criminel. Et j'allais dire, s'il casse plus loin, il s'est complètement viandé dans le
Il s'est
décor,
vautré. Voilà.
dans la plus grande tradition justement des flics extrêmement maladroits. J'allais dire un peu comme dans les personnages de Lupin the Third ou
Tout à
le
fait.
détective de Cat's Eyes et ainsi de suite. Donc un humour, enfin j'allais dire un côté assez potache et référencieux par rapport à la force de police.
C'est le genre de personnage que j'aime bien. Parce que ce sont des enfants. Et que quand on est un enfant, on a des rêves et qu'on a envie d'aller loin. On a
Et on
envie encore
pense
de
que ça va
rêver,
se réaliser
se
facilement
réaliser,
en plus.
et que ça va se réaliser facilement, et que finalement on s'aperçoit que la vie est un peu plus dure que ça. Et que voilà, justement, c'est la vie qu'il faut apprendre, et que ça permet justement au personnage, mais non seulement au personnage, mais à moi, mais peut-être au lecteur, de vivre l'aventure comme s'il était vraiment dans l'histoire, en fait.
Alors, ce pauvre détective est mandé par Clémenceau lui-même pour aller enquêter sur la réapparition de ce navire. Et là, finalement, j'allais dire, il va tomber de caribes dans Scylla. C'est tout le leitmotiv du bouquin. On a vraiment le sentiment. Alors, dès le départ, disons-le clairement au lecteur, il n'y a rien de steampunk.
Il y a.
Ou du moins, j'allais dire, il y a une évocation. Il y a un côté, il y a un aspect qui peut paraître steampunk, mais il faudra qu'on attende la suite pour en être réellement sûr.
Voilà, j'ai pas eu envie de développer le côté trop steampunk, c'est-à-dire mettre tout de suite des grosses machines à vapeur
Ou des robots qu'on
ou des
croisera à
robots.
chaque coin de
Voilà.
rue.
Ce qui m'intéresse, c'est
Par contre, tu
des
avais vraiment
petites
la
touches.
volonté de mettre en place un côté, un décor très belle époque, très début XXe
Exactement,
siècle.
voilà. Ça me plaît. C'est-à-dire qui.
Ou horreur sans nom, les trains arrivent à l'heure.
C'est vrai que les trains arrivaient à l'heure, mais je crois que les trains arrivaient plus à l'heure que maintenant. Je sais pas ça, il me
Ah,
semble que
ça
ça.
dépend. J'avais lu un article il n'y a pas longtemps qui déclarait que le record de retard pour une ligne de chemin de fer japonaise était de 30 secondes.
Ah ouais, bon, je connais. Bon. Mais effectivement, oui. Non, le steampunk, je voulais pas que ça soit trop steampunk. Je me suis vraiment posé la question, est-ce que je fais des métros aériens partout? Est-ce que je mets des dirigeables? Et je me suis dit quelque part, non, c'est peut-être plus fort dans l'ancrer dans la réalité, et pas vraiment dans la réalité non plus. On verra, alors dans le premier tome, on ne le voit pas, mais effectivement dans le deuxième ou le troisième tome, il y aura beaucoup plus ce côté 19e siècle, Jules Vernien. J'ai pas envie de dire
À la
steampunk.
Robida,
Voilà.
finalement.
Mettre des tramways souterrains, des grandes baies vitrées, ce genre de choses-là.
Un aspect un peu rétro-futuriste, finalement.
Voilà, mais pas trop. Pas trop non plus.
Oui, pour toi, il est hors de question que ça soit uniquement un décor.
Voilà, il faut.
Fait poser pour faire plaisir, parce
Exactement.
que c'est à la
Ouais,
mode,
voilà.
etc.
Et puis, il y a beaucoup de gens qui le font beaucoup mieux que moi, donc bon, je vais les laisser faire. Moi, je préfère rester, voilà, mettre
Alors,
des petites touches.
voilà, et justement au niveau de l'histoire, je dirais pour ma part, on a vraiment le sentiment que c'est ancré dans les histoires de science-fiction, d'horreur de la fin du 19e siècle. On pense inconsciemment à Lovecraft, où
Bien sûr,
finalement
tout à
l'horreur
fait.
n'est jamais vue, elle est
Suggéré.
suggérée par petites touches. On sent, et là je ne veux pas trop en dévoiler, parce que c'était vraiment ce qui fait avancer tout le scénario, tu joues avec le temps.
Tout
Ça,
à fait.
on comprend, on a droit du coup à des planches extrêmement savoureuses. Juste pour le plaisir, je voudrais citer l'un de mes passages préférés, c'est où les personnages tombent sur un dinosaure, un raptor, et où là, l'un de mes collègues m'a vu m'extasier. Donc qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, ah, ben, c'est bien la première fois que je vois quelqu'un représenter réellement un dinosaure avec des plumes, vu que c'était, j'allais dire, c'est une théorie qui est à nouveau le vent en poupe. On sait maintenant que les bestioles, ben, j'allais dire, on côtoie des dinosaures tous les jours, ce sont les
Les oiseaux,
oiseaux
ouais.
qu'on croise, et les scientifiques se sont rendus compte que ce soit que les Tyrannosaurus rex ou autres bestioles pourraient avoir éventuellement quelques plumes éparses d'ici de là, et voire même tout un coloris spécifique à certaines espèces, au lieu où ils étaient, et tout y quanti. Alors là, voir une espèce de... Bon, j'allais dire de saloperie, parce que quand on sait ce que c'est qu'un
C'est
raptor,
encore.
mais c'était juste totalement bluffant.
C'est gentil.
Le dessin était
C'est
pas
gentil.
mal, et c'est là où j'ai commencé à comprendre, j'allais dire par petites touches, ah, s'il commence à jouer là-dessus, je sens qu'on va beaucoup s'amuser. Alors, l'histoire, j'allais dire ce premier tome ne contient pas une histoire clé en main. Ça se termine sur un cliffhanger et on se rend compte que, tout du moins pour cette partie de l'histoire-là, ça sera bouclé dans un tome 2. Tu travailles déjà dessus?
Je travaille dessus, je suis en train de peaufiner en fait le scénario, d'écrire les dialogues. Et c'est une, voilà, si on veut revenir dans la technique de travail, c'est pas une technique de travail que j'ai utilisée pour le premier tome. Ce que je faisais pour le premier tome, c'est que j'avais globalement une idée sur le chapitre suivant, mais que j'avais pas tout écrit. Là, je veux changer de méthode de travail, c'est-à-dire que je veux tout écrire, tous les dialogues. Tous les cliffhangers qui pourraient y avoir, et de finalement me lancer sans trop réfléchir, enfin, en ayant réfléchi avant, et me lancer dans le dessin sans réfléchir à ce que je vais pouvoir écrire au niveau du dialogue, par exemple, ou au niveau de ce qui va se passer dans l'histoire.
Tu conceptualises plus.
Voilà, mais parce que je conceptualisais pas assez avant et ça m'a
Non, tu tentes une autre
voilà
approche.
j'ai eu des quelques problèmes avec ça donc voilà une autre technique.
Ah, ça, la souffrance du créateur devant la table à dessin. C'était Franquin qui avait fait une dépression carabinée, je crois que c'était sur KRN. C'était dans une aventure de Spirou, il s'est réveillé un matin, puis c'était le syndrome de la page blanche qui a duré pendant. X temps, hein. Pour la première fois, le magazine Spirou avait été
C'est
obligé de
ça.
dire, bon, ben, on met le truc entre parenthèses
Parenthèse.
et il reviendra, il s'est mis un sacré beau montant. Et c'est vrai qu'inconsciemment, nous lecteurs, en plus, je dirais maintenant, avec le côté internet, disponible rapidement, on est toujours en train de trépigner, c'est quand que sort la suite, mais j'allais dire, on ne se rend pas compte de la montagne de boulot qu'il y a derrière, histoire de moi, de planning, j'imagine, en plus, extrêmement serré.
70% du travail, c'est les idées. C'est les idées, c'est l'écriture, c'est ça. 30%, c'est le dessin. Mais si on n'a pas 70% des idées, on ne peut pas faire le dessin.
Alors au niveau de, j'allais dire, autre problème, comment, enfin autre problème, comment s'est passée justement la rencontre et le travail éditorial avec les éditions Contredire, qui finalement se lancent, j'allais dire, dans le manga, dans une branche, enfin continue leur publication qui est plutôt ésotérique, mais j'allais dire, à travers toi, passe un côté nettement plus BD, nettement plus manga.
Alors, ce qui est génial avec les éditions Contre-Nir et avec mon éditeur Frédéric, c'est que il me laisse carte blanche
Surtout.
sur tout, absolument sur tout.
Tu gères ton bébé comme tu l'entends.
Je gère comme je l'entends, j'ai mon planning, je fais mon planning et c'est génial et en même temps,
C'est très
c'est
contraignant
très
parce que...
parce que c'est énormément de responsabilités, il faut se discipliner. Moi, je ne suis pas quelqu'un de très discipliné. J'aime bien avoir quelqu'un derrière moi avec un. avec,
Oui, il faudrait faire ça, il faudrait plutôt le faire comme ça.
voilà, ou me dire bah, les planches, il faudrait peut-être que tu me les rendes maintenant.
Alors, est-ce qu'il y a un côté très mangaka, c'est-à-dire que tu es très suivi, il y a des réunions régulières pour voir l'avancée
Alors, bah, justement, c'est ça qui est cool, c'est que j'en ai pas, et en même temps, c'est ça qui est pas cool parce que j'en
Parce
ai
que
pas.
du coup, tu es obligé de tout ramener d'un coup
Voilà.
et.
Mais bon, je pense que c'est la façon dont on travaille en France. Au Japon, effectivement, un mangaka est excessivement suivi par son éditeur et c'est un peu son moteur. En France, on a plus de liberté. Alors, c'est bien, on a plus de liberté d'expression, plus de liberté de ce que vous voulez. L'éditeur n'est pas là pour vous dire bah, non, là, il faudrait mettre un peu un cliffhanger, ou il faudrait mettre une finue, ou voilà, ce genre de choses-là pour plaire au public. Non, là, j'ai une totale liberté et vraiment, je remercie Frédéric et les éditions Très Daniel, enfin, éditions Contredire. pour cette liberté.
Ok, alors ça vient juste de sortir. On commence à le voir fleurir à droite à gauche en maintenant le cri du cœur. Qu'est-ce que tu dirais au lecteur? Comment tu définirais toi-même ton travail pour leur donner envie d'aller l'acheter?
C'est une histoire d'aventure, de véritable aventure. En ce moment, je trouve que dans la bande dessinée, il n'y a plus d'histoire d'aventure, de plus de personnages qu'on suit véritablement au travers d'un voyage initiatique, sont plus des combats, effectivement des choses qui font rêver, mais qui ne sont pas personnelles. Le Grand Pélican, c'est quelque chose de véritablement personnel. Et j'ai envie que les lecteurs, à travers cette histoire, voyagent avec Oscar Lagrange, avec les différents personnages du Grand Pélican, dans cet univers steampunk, fantastique, mystérieux, et de voyager, parce que le Grand Pélican sera un voyage. Ça se passe en France, à la fin du 19e siècle, mais ça va se passer dans le monde, en Égypte,
c'est
en
une
Mexique,
quête initiatique,
en Chine.
En fait. Ouais,
c'est une quête initiatique. C'est le voyage.
C'est
vraiment
le maître mot, je dirais.
C'est le voyage. Et moi, je suis quelqu'un qui aime voyager, que ce soit véritablement voyager, aller dans des pays que je ne connais pas, mais c'est aussi voyager dans l'esprit, c'est voyager dans l'imaginaire. Voilà.
Bah, en tout cas... On prend d'ores et déjà rendez-vous pour le tome 2 qui devrait sortir, donc si je dis pas de bêtises, pour le premier trimestre 2013 à peu près,
voilà.
Ou alors dans le pire des cas, en même temps on va pas mourir, pour la rentrée 2013. Ah, bah, écoute, Cédric, merci beaucoup,
merci,
je souhaite à ton manga tout le succès qu'il mérite, et c'est vraiment un coup de cœur, c'est une œuvre touchante avec des personnages extrêmement bien construit, un graphisme vraiment agréable, donc n'hésitez pas.
Merci Bertrand.